Bon. Écoutez, là, vous avez... c'est à la quatrième ligne, n'est-ce pas? Non. À la cinquième ligne. Débé, Rabbi Ishmael, au milieu de la cinquième ligne. Débé, Rabbi Ishmael, Tana. Dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, on enseignait. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on enseignait? On enseignait une autre version de ce qu'a répondu la fille de l'empereur à la place de Rabbi Yehoshua. Voilà. Rappelez de ça. C'est-à-dire que... Non, de Rabban Gamliel, pardon. C'est-à-dire la question que posait qu'a posé l'empereur à Rabban Gamliel, c'était comment se fait-il que de la poussière puisse ressusciter? Et alors, la fille de l'empereur a répondu à la place de Rabban Gamliel. Elle lui a fait un calvachomer, elle lui a dit si Dieu a pu former à partir d'un liquide, alors à partir, c'est-à-dire la substance séminale, alors à plus forte raison qu'il peut former à partir de la poussière. Ça, c'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Et là, il y a une autre version de cet enseignement, c'est ce qu'on enseignait chez Rabbi Ishmael. Debe Rabbi Ishmael Tana, on enseignait calvachomer mikele zechuchit. On fait un raisonnement a fortiori par les ustensiles de verre. Ma kele zechuchit. Sheamalan beruah vadam. Beruah basar vadam. Alors que on les fait avec le labeur d'un être de chair et de sang. Nishberu, s'ils sont brisés, yesh lahem takana, ils sont réparables. Le verre, effectivement, on peut le ressouffler. N'est-ce pas? En pharmacie, d'ailleurs, ça se fait, non? Non, ça ne se fait pas en pharmacie? Non, bon, d'accord. Donc, on prend le verre, on le fait fondre à nouveau, on peut refaire un ustensile avec du verre brisé. Basar vadam chez Beruho, chez la Kadosh Baruchu. Alors, la chair et le sang qui sont faits avec le souffle du Saint béni soit-il, alahat, kama, vechama, alors à plus forte raison qu'ils peuvent être reformés. Voilà, ça c'est l'enseignement de Rabbi Ishmael. Bon, alors il y a ici beaucoup de choses à dire. Je vais expliquer ça à la lumière de l'enseignement de Rabbi Chaim de Volozhin. Rabbi Chaim de Volozhin, dans son Nefesh HaChaim, interprète ce texte de la manière suivante. Il explique que la manière dont l'homme est fait, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre l'âme et son corps, c'est le rapport qu'il y a entre le souffle du souffleur et le verre en fusion. D'ailleurs, petite remarque avant d'entrer dans ce que dit Rabbi Chaim de Volozhin, vous avez ici donc deux paraboles différentes pour expliquer que ce que c'est que le corps. D'après la première parabole, la première version, celle qui n'est pas de Rabbi Ishmael, le corps est comparé à un ustensile de terre cuite. Et dans la deuxième version, il est comparé à un ustensile de verre. Et ça veut donc dire qu'il y a deux manières d'envisager le corps. La première, c'est d'envisager le corps comme quelque chose d'opaque. C'est-à-dire ça crée une opacité qui cache la lumière de l'âme. C'est-à-dire la neshama ne peut pas se manifester dans sa plénitude à cause du corps. Ça, c'est le corps en tant que terre cuite. Tandis que s'il est du verre, eh bien au contraire, le corps, c'est le médium qui permet à la neshama de se manifester. Il y a une illumination à travers le corps. Et ça, c'est donc deux manières de l'utiliser, probablement. C'est-à-dire, si on l'utilise bien, alors on ressemble à du verre. Si on l'utilise mal, on est de la terre cuite. Il y a aussi une autre différence, c'est que quand un ustensile de verre est brisé, il est réparable. N'est-ce pas? Quand un ustensile de terre cuite est brisé, il n'y a rien à faire. Nishberu en la mtakana. Ça veut donc dire qu'il y a également un corps qui mérite de reparticiper à la vie, donc la résurrection des morts. Il y a un corps qui ne mérite pas de reparticiper à la vie, et donc il n'aura pas part à la résurrection des morts. Ce sont donc deux manières d'envisager. Mais là, ici, on parle donc du corps du tzaddik, de la manière dont il est fait. Alors, là, je voudrais employer une terminologie qu'on trouve dans la Kabbalah, c'est qu'il y a trois niveaux d'être dans l'homme, c'est le nefesh, ruach, neshama. Tu vois ? Nefesh, ça signifie en général l'être. L'être. Je suis ce que je suis un nefesh. Ruach, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Et neshama, c'est ce qu'on appelle l'âme. Tu vois ? Voilà. Alors, ça correspond à quoi ces trois niveaux d'être? Parce que l'un est lié à l'autre, mais enfin, c'est pas exactement la même chose. Vous avez en bas le nefesh, un peu plus haut le ruach, un peu plus haut la neshama. Alors, Rabbi Chaim de Volozhin interprète ça selon la parabole de la manière dont on fait des ustensiles de verre. Vous avez déjà vu comment est-ce qu'on fait un ustensile de verre ? On prend du sable. Et qu'est-ce qu'on fait avec le sable ? Eh bien, on le porte à très haute température et il fond. N'est-ce pas ? Il devient du verre liquide. Comment est-ce qu'on fait une forme ? On ne peut pas le toucher. C'est brûlant. On prend une pipette, une sorte de tuyau, qui touche d'une part, d'un bout la bouche du souffleur, de l'autre côté le verre. Il faut faire très attention de ne pas aspirer l'air dans l'autre sens, c'est très dangereux. Mais il faut souffler dans un seul sens. D'accord ? Et ça prend la forme que ça prend. Alors maintenant, l'air qui va remplir cet ustensile a trois moments. Le premier moment, c'est quand il fait partie de la personne du souffleur. C'est dans ses poumons, dans sa bouche. Le deuxième moment, c'est quand ça se trouve dans le tube. Le troisième moment, c'est quand ça se trouve dans le bloc de sable. C'est-à-dire qu'au début, c'est la respiration du souffleur, c'est sa neshima. Sa neshima, en hébreu, respiration. Or, le mot biblique pour dire respiration, en hébreu moderne, et même dans l'hébreu des Chachamim, pour dire une respiration, on dit neshima. En hébreu biblique, la respiration se dit neshama. C'est-à-dire que le mot neshama, à l'origine, veut dire respiration. Et puis après, quand ça passe dans le tuyau, ça s'appelle ruah. C'est un souffle qui passe d'un côté à l'autre. C'est instable. Et quand ça s'arrête, quand ça se calme, ça se repose, Shabbat vayinafash. Le Shabbat, c'est le jour du repos. Nefesh, c'est là que le souffle se repose. D'accord ? Donc il y a en nous quelque chose, une étincelle qu'on pourrait appeler une étincelle divine, c'est la neshama. Il y a en nous quelque chose qui se repose, c'est mon moi, je suis stable, je suis toujours moi-même. Et puis j'ai une relation, si on veut, un peu instable, mais disons, qui me sort de la routine, c'est mon ruach, c'est mon esprit qui me met en contact avec ma neshama. C'est à la manière dont ça se passe dans le tube. Voilà. C'est clair ce que je dis là ? T'as pas compris ? Tu as très bien compris. Je trouve ça génial. Il y a une interprétation du Rav Nachmani. Vous avez entendu parler du Rav Nachmani ? Vous avez entendu parler du Rav Nachmani ? Non, du Rav Levi Nachmani, un contemporain. Il est mort il y a quelques années. Il disait que le mot Ruach, c'est la fin du froid et le début du chaud. Comment est-ce qu'on dit froid en hébreu ? Kar et chaud, ham. Donc la fin de kar, c'est resh. Le début de chaud, c'est het. Donc resh vechet, au milieu, c'est ruach. Et donc, comme il y a ici deux éléments, un élément chaud, un élément froid, donc c'est là que ça crée un mouvement d'instabilité qui est justement l'esprit. C'est-à-dire qu'un homme d'esprit, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de son présent, pourrait-on dire. Et donc, il a toujours une aspiration à sa neshama. Est-ce bien clair ? Je vais peut-être un peu plus approfondir la chose. D'après le Gaon de Vilna, les trois niveaux, nefesh, ruach et neshama, correspondent au passé, au présent et à l'avenir. Ah bon ? Ben pourquoi ? Ben c'est très simple. À la naissance, qu'est-ce que je suis ? Je suis une sorte d'animal un peu braillard, que tout le monde admire, mais je suis finalement une bête. J'ai en moi mon élément nefesh, qui est commun à l'animal et à l'homme. C'est ça le nefesh. Et puis, après, je grandis. Et ça fait partie donc du passé, c'est une donnée. Il n'y a pas à revenir là-dessus. C'est-à-dire, le nefesh m'est accordé dès le départ, en cadeau. Donc, mon nefesh, c'est mon passé. Ce que je serai un jour, c'est-à-dire mon idéal, ce vers quoi je tends, c'est vers la neshama. Donc, la neshama, de mon point de vue, c'est mon avenir. Mais alors, où est-ce que je suis, moi ? Eh bien, je suis dans la relation entre le nefesh et la neshama. Je suis dans le présent, dans le ruach. C'est ça qu'explique Gaon de Vilna. Nefesh, ruach, neshama, c'est avar, hové, ve'atid. Tu m'as l'air bien fatigué. Prends un café. Tu prends jamais de café ?
C'est
bon, d'accord. Non, d'accord. Non, c'est bon le café.
La parole et
comment ?
Nefesh, ruach, neshama,
ah oui, alors c'est sûr. Alors, donc, il y a une correspondance à ça également. Non, bien sûr. Non, c'est très simple. Alors, il y a tout ordre de correspondance. Donc, on peut dire, par exemple, l'intelligence a plus de rapport avec la neshama. C'est pas que l'intelligence, c'est la neshama. La neshama, c'est bien plus loin que ça. Mais enfin, l'intelligence a ce reflet de la neshama. Et puis, dans la parole, il y a le ruach. Parce que la parole, c'est justement ce que l'on fait dans le présent. C'est-à-dire, c'est une pensée qui est en train de s'actualiser. Et puis, dans les actes, l'acte, le nefesh, le ma'asé, c'est dans le nefesh. D'accord ? Il y a donc toujours ces parallèles-là.
Excusez-moi.
Oui.
Alors, ça a l'air de se contredire. D'un côté, vous présentez le nefesh comme une origine, et le neshama comme un aboutissement, et dans une autre symbolique, l'inverse.
Oui, absolument. C'est donc contradictoire. À moins de trouver une réponse. La réponse, c'est que ce que j'ai expliqué, c'est la manière dont Dieu crée l'homme. Alors, il commence par la Neshama, qui devient Ruach, qui devient Nefesh. Mais du point de vue du vécu de l'homme, c'est le contraire. C'est-à-dire, l'homme commence par être conscient de son Nefesh, et son Ruach et sa Neshama sont cachés. C'est-à-dire, il en prend conscience qu'en grandissant. N'est-ce pas ? Par exemple, le Zohar dit, à l'âge de 13 ans, on reçoit le Ruach. Et puis, à l'âge de 20 ans, on reçoit la Nishama. Parce que c'est le moment où on est jugé. C'est-à-dire qu'on est vraiment responsable. Oui, Baron Chin. C'est-à-dire qu'on est vraiment responsable.
Le travail, ce serait une sorte de retour aux sources, en fait.
Non, c'est d'intégrer les trois à la fois. À la fois, Nefesh. C'est-à-dire, le travail, c'est d'accorder l'éternité au Nefesh. C'est-à-dire qu'on peut dire à la limite que la Neshama soit éternelle, ce n'est pas un grand problème, c'est une étincelle de divinité, à la limite. Mais le chidouche, c'est que le Nefesh, qui est le vécu psychophysiobiologique dans ce monde, participe de l'infini. Ça, ce n'est pas évident. C'est pour ça que quand on parle du Olam Haba, l'enjeu, ce n'est pas l'éternité de. Comment ils appellent ça chez les philosophes? L'immortalité de l'âme. L'enjeu, c'est pas ça. L'immortalité de l'âme, elle est accordée dès le départ. Le chidouche, c'est de faire du nefesh quelque chose d'immortel. Parce que pour les philosophes, la neshama, elle reste, le nefesh disparaît. C'est la partie animale de l'homme.
C'est une vision plus orientale.
Qu'est-ce qui est plus oriental? Le judaïsme?
Non, je parle de la vision de faire justement du nefesh quelque chose d'éternel.
Ah oui, ça, de préserver le moi. Et souvent, chez les philosophes, il y a cette tentation de dire, c'est quoi l'immortalité de l'âme? C'est revenir au grand esprit. Et donc, il y aurait une disparition du moi individuel. Et le chidouche de la Torah, c'est qu'on est capable d'accorder l'éternité au moi individuel. Il y a chez les kabbalistes une expression qu'on appelle « haluka des rabbanan », c'est-à-dire le vêtement des rabbins. C'est quoi le vêtement des rabbins? C'est ce qui isole le nefesh du reste de la spiritualité du monde. C'est-à-dire, même quand on quitte ce monde, on garde une sorte d'enveloppe. Cette enveloppe, c'est ce qui permet de préserver son individualité. C'est clair ? Et on peut, si on peut prendre une autre image que l'image du ver, c'est comme s'il y avait un arbre dont la racine serait la neshama, et le tronc serait le ruach, et les fruits seraient le nefesh. Alors, imagine qu'on coupe une branche, on peut couper les branches d'un arbre, il reste le tronc. On coupe le tronc, il reste les racines. C'est-à-dire, la neshama, elle, n'est jamais altérée. Mais c'est le ruach qui peut être altéré et le nefesh qui peut être altéré aussi. Pour ça, par exemple, quand on parle du karet, le karet, que dit la Torah? Venichreta la nefesh. C'est-à-dire, la nefesh sera retranchée du ruach et de la neshama. Mais le ruach et neshama, ça reste toujours.
Mais on a dit une fois à propos de. Lorsqu'on a parlé de Bigoum et Chamot, on avait dit que. Les Mikouvalim disaient qu'on avait la possibilité à 4 essais plus ou moins.
Oui, 3 ou 4, oui.
Non, au bout de 4 essais, qu'est-ce qui se passe?
Ah, ça marche.
Qu'est-ce qui disparaît? C'est quoi? La Neshama reste toujours? C'est le Nefesh?
Oui, c'est-à-dire que la Neshama, c'est comme une racine qui fait pousser des Nefashot. C'est-à-dire, si ça n'a pas marché une fois, ça repousse.
Mais au bout de la quatrième tentative, qu'est-ce qui reste de ce nefesh?
Non, ça marche.
Ah, c'est distinct, c'est...
Non, à la quatrième tentative, soit ça marche. Et si ça ne marche pas, hein, alors il y a d'autres formes de gilgoum. C'est-à-dire, alors ça passe dans les animaux, ça passe dans le minéral, etc. C'est pour ça que, par exemple, quand on fait Birkat Ha'ilanot, on fait le tikkun des nefashot qui se trouvent dans les fleurs. On fait une sorte de berour. C'est pour ça que les kabbalistes ne font pas la Birkat Ha'ilanot Shabbat pour ne pas faire borer Shabbat.
Ah. Ouais. Et une histoire aussi d'Abdallah, le fait de ne pas boire juste après l'Abdallah, il y a aussi une histoire de nefesh,
non? Il y a des choses comme ça. Non, il ne faut pas boire et manger après la shkia. C'est-à-dire de commencer à boire et manger après la shkia. pendant Shabbat. Mais c'est pour d'autres raisons, c'est parce
non,
que
non,
c'est.
Ça. Oui. Et l'histoire de la taille aussi, une certaine échelle comme ça. Non, ce qu'on dit sur les cheveux de terre, c'est quelque chose maintenant.
Non, ce qu'on dit Vinoam. Parce que les Neshamot, elles reviennent dans le Guéhinam.
Non, mais
il y a une
histoire de ne pas boire. De
pas boire avant l'Avdala. Je ne crois pas que ce soit lié à ça. Oui. Non, parce qu'on dit qu'on boit l'eau des morts, les pauvres. C'est le moment où ils ont le droit de boire. Et on les sort du Guéhinam pour qu'ils puissent boire. Alors si on leur prend l'eau. Bon. Ouais. Bon, enfin, donc revenons à notre histoire là. Donc le Nefesh peut être retranché. Si on vraiment fait des efforts, on est capable de retrancher son revoir, mais on ne peut pas retrancher la Neshama. Jusqu'à où vous suivez ? C'est pour ça qu'on dit Elohai, Neshama, Shenatabi, Teora.
Le Nefesh, c'est quoi déjà ?
Le Nefesh, c'est la partie en moi, qui dit je. La conscience, dans ce cas, le plus brut. C'est-à-dire la conscience immédiate. D'accord ? Pas la conscience. Comme, d'accord. Mais je vais vous rappeler que dans la page d'avant, il y avait une objection de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva disait qu'à chaque fois qu'apparaît la racine karet, il s'agit d'un autre monde, n'est-ce pas ? Hi karet, c'est Rolam Hazeh, ti karet, la Rolam Haba. Alors Rabbi Ishmael dit, oui, mais encore il écrit une troisième fois, venir Kreta, y aurait-il trois mondes ? Ça veut dire quoi, cette objection de « y aurait-il trois mondes » de la part de Rabbi Ishmael ? Comment ? Si à chaque fois qu'il est écrit « karet », ça veut dire qu'on est retranché, alors ça veut dire que la première fois est retranché le nefesh, la deuxième fois le roi, et même la neshama serait retranchée, inadmissible. C'est-à-dire, on ne peut pas admettre que quelque chose qui, par définition, est éternel dans l'homme, soit retranché. C'est pour ça que Rabbi Ishmael s'oppose à l'interprétation de Rabbi Akiva. Il a en vue ce que dit Rabbi Ishmael, qu'il y a dans l'homme nefesh, roi et neshama. Est-ce que là vous me suivez ? Ouais. Il y a également en fait il y a ici une marloquette entre le Rambam et les Mekoubalim. Alors, pour le Rambam, la Neshama peut être également retranchée. Mais enfin, chez les Mekoubalim, c'est très clair, la Neshama revient à chaque fois et donc elle peut donner un nouveau Nefesh. Donc il y a un tikkun même pour le Karet. C'est peut-être plus compliqué, mais enfin, finalement, il y a un tikkun. C'est ça donc ce que disait Rabbi Ishmael, quand il comparait l'homme à un ustensile de verre. Voilà. Bon, ben on va continuer le texte. Amarle Haoumina. Vous y êtes ou pas ? C'est à la ligne numéro 8, non 9 même. Amarle Haou Mina. Un hérétique a dit les rabbis amis. Un rabbi ami. C'est son copain. Comme son nom l'indique. Un hérétique. Quoi ? Un hérétique, c'est quelqu'un qui remet en question les fondements de la foi. D'accord ? Quoi ? Eh ben, t'as qu'à voir. Ils pratiquent ce qu'on appelle l'hérésie. Il y a des hérésies. Celui qui est adepte d'une hérésie, c'est un hérétique. H-E, c'est ça ? Hérétique. H-E-R-E. T-I-Q-E. Bon. Donc, Amarle Aoumina le Rabbi Amé. Un hérétique a dit à Rabbi Amé. Amaritu, vous affirmez. C'est l'arménien tout ça. Des charvés haye, que les morts revivront. Veha havo afra, or ils deviennent de la poussière. Veafra mika haye, est-ce que la poussière peut vivre ? Alors, ça, c'est pas exactement. Cette question a déjà été posée par l'empereur à Rabban Gamliel, mais ici elle a un autre sens. Est-ce que nous avons déjà vu un phénomène de ce genre ? De la terre qui redevient vivante. On n'a jamais vu ça. Alors il demande, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dit Kohelet, En Hadash Tahat Hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors comment se fait-il qu'il y aurait la résurrection des morts ? C'est quelque chose d'absolument nouveau, d'inouï. Donc comment ça marche votre truc ? Amarlo, il lui a répondu. Emshol lecha machal. Je vais te faire une parabole. Lema adavar domé. À quoi cela peut-il ressembler? Les melech basar vadam, un roi de chair et de sang. Shamar la avadav, qui a dit à ses serviteurs. Lechou, allez, ouvnuli platrin gedolim, construisez-moi un grand palais. Bemakom, chez Enmaim ve'afar, dans un lieu où il n'y a ni eau, ni terre. Alchou uvanu oto. Et ils ont réussi à le faire. Ils ont construit un palais, là où il n'y avait ni eau, ni terre. Non, c'est pour toi. Ah, tu es trop bon. Là, je suis à Cognac. C'était pas la peine. Bon. Ils l'ont fait. Les Yamim Naflou, après un certain temps, le palais s'est effondré. Amar Lahem, il leur a dit. Hizru uvnu oto. Reconstruisez-le. Bemakom sheyesh afar umaim, là où il y a de la terre et de l'eau. Amoulo, ils lui ont dit, enanu yicholin, on ne peut pas. Kaas alehem, il s'est emporté contre eux, il s'est courroucé, il s'est mis en colère. Ve'amar lahem, il leur a dit, bemakom she'en maim ve'afar benitem, là où il n'y a ni eau ni terre, vous avez construit. Arshav sheyesh maim ve'afar, maintenant que vous avez de l'eau et de la terre, alors à plus forte raison que vous pouvez le faire. C'est quoi cette histoire? C'est quoi la vie, c'est le palais qui a été construit là où il n'y a pas d'eau, etc. À partir de quoi la vie a été formée? La vie, oui, est apparue. Et c'est vrai que, bon, il y a tout un débat au 19e siècle entre Pasteur et Fouché. Pasteur et Fouché. Pasteur n'admettait pas ce qu'on appelle la génération spontanée, et Fouché affirmait la génération spontanée. C'est quoi la génération spontanée? C'est cette idée qu'une matière qui n'est pas vivante peut donner naissance à de la matière vivante. Par exemple, on disait que voilà, on prend quelque chose de totalement stérile, on va mélanger avec un peu d'eau, un peu de poussière, etc., ça va donner de la vie. C'est ce que disait Fouché. Pasteur affirmait qu'à chaque fois qu'on voit une matière vivante apparaître à partir de quelque chose qui semble ne pas être vivant, c'est qu'il y a un germe, un œuf, microscopique, invisible, mais il y a quand même quelque chose là-bas. D'accord? Par exemple, pourquoi est-ce que les mouches naissent à partir de la viande? Hein? Oui, non, il y a des vers d'abord. Il y a des. Mettez un morceau de viande sur la table, après 3 jours, vous avez des vers. N'est-ce pas? D'où viennent ces vers? Alors, ce qu'affirme Pasteur, c'est qu'il y a eu une germination, c'est-à-dire il y a eu un œuf posé par une mouche et qu'il a grandi dans la viande, c'est pour ça que le ver est sorti. Tandis que Fouché disait non, pas du tout, il y a une faculté de la viande de se transformer en matière vivante. Ça s'appelle la génération spontanée. Bon, finalement, qui c'est qui a gagné? C'est Pasteur, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a eu des expériences qui ont été faites dans un sens, dans l'autre, etc. Après plusieurs années de vérification, la conclusion du monde scientifique, c'est que c'est Pasteur qui a raison, il n'y a pas de génération spontanée. Cependant, si on parle de la théorie darwinienne, par exemple, comment est-ce que la vie a commencé pour la première fois à apparaître sur Terre? Eh bien, elle est apparue par génération spontanée. Mais ce que disent les scientifiques, c'est que les conditions qui ont permis à l'époque, à la matière, de se transformer en matière vivante, n'existe pas aujourd'hui sur Terre. Il y avait à l'époque... Ce truc va se casser. Les conditions sur Terre, les conditions atmosphériques, le rayonnement cosmique, etc., étaient telles qu'à l'époque, les premières molécules vivantes ont commencé à apparaître, etc., et c'est comme ça que commençait l'évolution. Donc, il y a eu un moment où ça a été possible. Mais le but, c'est fini. Alors, je ne dis pas forcément que la Guémara connaît ces théories, mais il y a des intuitions qui ressemblent à ça dans la Guémara. C'est-à-dire, comment?
C'est la blague de Maurice Strunk.
Non.
À propos de ça, de la génération spontanée qui présente que le monde a été construit à partir d'une grosse explosion.
Oui.
Mais pourquoi il se fatigue à construire des bâtiments? Il n'a qu'à prendre un bâtiment de dynamite, il envoie, et puis tout d'un coup, il y a un gratte-ciel de 25 étages qui va pousser.
Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu ce que dit la Guémara. Voilà. La Guémara dit que ça marche. Il suffit de faire une explosion, il y aura un gratte-ciel de 25 étages. Justement, c'est-à-dire, ce qu'elle dit, c'est que Dieu a créé l'homme, enfin, la vie est apparue à partir de la non-vie. C'est-à-dire, c'est ça le palais qui est construit dans un endroit où il n'y a pas d'eau et de terre. Une fois que la vie a déjà eu une présence sur terre, alors il y a une certaine logique à ce qu'elle continue. C'est ça le... C'est la blague de qui ?
Un ministre.
Ah, d'accord. Oui. Et alors là, il y a un petit problème. Bon, c'est vrai cette idée-là, mais c'est pas très scientifique. C'est-à-dire, c'est vrai que à partir de la matière inerte peut se former de la matière vivante. Mais tout le monde sait très bien que ça prend très longtemps. Tout le monde sait que ça prend très longtemps. Combien de temps ? Des millions d'années, n'est-ce pas ? Alors regardez ce que dit la Guémara, que c'est pas très, très logique tout ça. Parce que ve'im iatama amin, si tu n'y crois pas, c'est la bika, sors dans la vallée, ur'e achbar, et vois qu'il y a là-bas une souris, she'ayom hetio basar ve'hetio adama, qui aujourd'hui est moitié chair, moitié terre. Les Maharishrits, le lendemain, elle s'est devenue vivant. Venaasa kulobasar, et elle est entièrement faite de chair. C'est quoi cette histoire ? Vous avez déjà vu, vous, des souris qui sont formées à partir de la terre ? Hein ? Oui, alors c'est l'histoire de la génération spontanée. C'est comme si de la terre pouvait devenir. D'ailleurs, Maïmonide, dans son commentaire sur la Mishnah, dans Maseret Roulin, dit qu'il y a un nombre innombrable de personnes qui lui ont raconté qu'ils ont vu ça. Enfin, lui-même n'a jamais vu. Mais il dit, il y a des gens qui m'ont raconté qu'ils ont vu des souris naître de la terre.
Comment ? Des râteaux,
oui. Ouais. Bon, c'est probablement des sortes de légendes qui étaient courantes dans le sud de l'Égypte, là où, où le Rambam était habité. Alors regardez ce que dit la Guémara. Shema Tomar Lisman Merubé, mais peut-être que tu vas me dire que ça prend longtemps. Ça prend longtemps à ce que la matière devienne, à partir de la terre, une souris. Hein? Depuis la première amibe jusqu'à la première souris, ça a pris quand même des millions d'années. N'est-ce pas ? Alors, Lisman Merubé, c'est pas ça la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est un jour, tac, les morts sortent de la terre. Comme des fleurs. Alors, ce que dit la Guémara, eh bien, allez là, monte sur la montagne. Tu verras, il n'y a aujourd'hui qu'un seul escargot. Les mahar, yardouk shamim, quand demain la pluie tombe, velit mala kulor helzonot, tu vois que la montagne est pleine d'escargots. Bon, c'est pas convaincant. Parce qu'il y avait un escargot quand même. Il y en avait déjà un. Oui. Et puis même, je veux dire, même si on peut dire qu'il y a parfois une génération très rapide, mais c'est à partir d'un être vivant. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la Guémara, là ? Elle veut dire que si on veut avoir une idée de ce que c'est que la résurrection des morts, il faut faire une synthèse de deux images que nous trouvons dans notre monde. La première image, c'est qu'effectivement, à partir de la matière inerte, on est arrivé... Il y a quelque chose, hein ?
C'est un taxi.
Ah, d'accord. C'est-à-dire, nous avons donc un premier témoignage. Nous voyons que la matière inerte devient de la matière vivante. Mais ça prend très longtemps. D'un autre côté, nous voyons qu'il y a des phénomènes biologiques qui sont extrêmement rapides, c'est l'escargot. Et donc, si je fais une synthèse des deux à la fois, eh bien, ça donne la résurrection des morts.
L'escargot et
la souris. Comment ? Oui, l'escargot et la souris, eh bien, ça fait résurrection des morts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la résurrection des morts, c'est pas une explication, si l'on veut, scientifique de la résurrection des morts. Mais ça veut dire que les données de la résurrection existent dans notre monde, simplement, elles ne sont pas mêlées. Ça me rappelle un peu en génétique, il y a un problème. Il y a un fruit sud-américain qu'on appelle jojoba, qui n'est pas comestible, mais qui a cette particularité de ne pas pourrir. C'est-à-dire, même quand on le coupe de l'arbre, on peut le laisser pendant des mois sur la table, il arriverait. D'un autre côté, il y a un fruit extrêmement juteux et bon, c'est la tomate, mais ça pourrit très vite. qu'ont fait des généticiens israéliens. Ils ont fait un mélange. Ça a donné des tomates qui tiennent pendant des mois. Ils ont vu, ils ont comestibles. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait pour l'export. Oui. Ça a certainement donné également des tomates qui pourrissent, des jojoba qui pourrissent tout de suite. Ça, certainement. Mais ils ne les ont pas vendus. C'est-à-dire qu'ils ont fait une sélection.
J'ai entendu qu'ils avaient essayé de faire un croisement entre le navet et la laitue pour avoir la racine de l'un qui est comestible. Les feuilles de l'autre qui sont comestibles.
Et ça a été
ils ont
donné
exactement le contraire.
Ah, ils ont fait le contraire.
Les racines de laitue avec les feuilles de.
Ah, d'accord.
On aura le droit de manger ces tomates ?
Oui, on a le droit de manger ces tomates. Ah, oui. Si on a le droit de faire, c'est autre chose. Mais une fois que c'est fait, on peut manger. Bon, effectivement, c'est pour l'exportation, c'est comme ça qu'on envoie des containers entiers de tomates en route de la
arrêt. Ah, pour nous, on n'a pas le droit de manger.
Non, on a le droit de manger. Non, mais tu n'as pas besoin d'attendre des mois. C'est-à-dire, tu achètes tes tomates qui ont poussé il y a une semaine. D'accord ? Mais deux ou trois jours. Mais il y a cette idée-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que souvent, quelque chose qui nous semble, disons, extraordinaire, eh bien, c'est en fait simplement l'assemblement de données qui sont éparses dans notre monde qu'on peut rétablir ensemble. Par exemple, il y a une Guémara dans Maseret Shabbat. Il y avait un élève, Rabbi Yochanan disait. Un jour, les femmes accoucheront tous les jours. Alors, son élève lui a dit, mais enfin, En Hadash Tahat HaShemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, il a montré un œuf. Tu vois bien que les poules donnent des enfants tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut, si on développe ce qui existe, c'est-à-dire on peut faire un croisement de poulets et d'hommes, eh bien, on aura donc des enfants tous les jours. C'est probablement... une manière de pondre des œufs humains qu'on mettra en incubateur. Et alors le couple attendri verra pendant plusieurs mois l'œuf se développer. D'accord ? Et donc on pourra avoir des enfants tous les jours. Bon.
C'est les humains qui vont
faire. Oui. C'est ça. Donc c'est ça l'histoire de la Guémara. La Guémara veut dire qu'on peut avoir l'intuition de la triatamétime en observant les escargots et les souris. Oui.
Une question que j'ai déjà posée. La connaissance de la biologie actuelle chez les Tanaïm.
Non, ils n'avaient pas les connaissances que nous avons.
Est-ce qu'on est obligé de dire ça ou est-ce qu'on peut dire qu'ils savaient qu'à l'époque, ce n'était pas nécessaire de le dévoiler
Rien ne nous oblige à dire que nos Chachamim avaient les connaissances scientifiques que nous avons.
On dit que la Terre tourne autour du Soleil ou le contraire ?
Oui, mais ça, ce sont des choses que des Grecs aussi ont affirmées. Par exemple, l'idée que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, il y avait un astronome à Alexandrie qui s'appelait Aristarque, au IIe siècle avant l'ère chrétienne, donc à l'époque des Ougotes, qui avait déjà dit ça. Il a été réfuté par les autres. Mais il y avait déjà cette théorie. C'est-à-dire, des théories de ce genre se promenaient un peu dans le monde. Oui, le fait que finalement on a retenu Ptolémée, c'est pas.
Si une chose est dite, son inverse peut être dit et considéré comme.
Oui, absolument. Mais par exemple, cette idée qu'il y a des antipodes, par exemple, le Zohar dit que de l'autre côté de la Terre, il y a des hommes, etc. Bah, c'est une idée qu'on trouvait chez les pythagoriciens aussi. C'est-à-dire, ça existait ces choses-là. Il faut pas toujours. Souvent, on est tenté de dire que les anciens, ils avaient des connaissances absolument gigantesques. C'est vrai que parfois, ils avaient des connaissances qui ont été oubliées et retrouvées par la suite. Par exemple, faire une césarienne plus qu'une fois. Au Moyen-Âge, quand on faisait une césarienne, on ne pouvait plus avoir d'enfants. Or, la Guémara nous parle, la Mishnah nous parle d'une femme qui a eu plusieurs enfants en césarienne. Alors, c'est considéré par tous les Mefarchim comme quelque chose d'impossible. C'est quelque chose de purement théorique. Aujourd'hui, on sait le faire. D'accord ? Donc, il y a certainement des connaissances qui disparaissent et qui réapparaissent. C'est pas impossible. Mais il y a également, on trouve ça chez les Chachamim, des connaissances scientifiques erronées. Bon, c'est la Guémara dans Psachim qui le dit. Puis il y a tout un débat d'astronomie entre les Chachamim de Grèce et les Chachamim d'Israël. Et c'est les Grecs qui avaient raison. Oui, d'accord, mais enfin, le Rambam, lui, il prend cette Guémara et il dit non, ça veut dire qu'en matière scientifique, on n'a pas de.
L'histoire des poules.
Des quoi, des
Sur les poules.
Les poux.
Oui.
Oui, alors Guémard dit que l'époux ne c'est pas le fruit d'une pyria virivia, c'est pas par fécondation. Et alors?
Non.
Ce qui est d'ailleurs faux, mais enfin, oui.
Non, justement, ça c'est une...
Oui, non, mais ça c'est pas vraiment une erreur, c'est autre chose. C'est-à-dire c'est l'approche de la... C'est-à-dire que la plupart des poskim considèrent que même aujourd'hui, c'est pas sur Minatora de tuer l'époux au Shabbat. Parce que la manière de considérer si quelque chose est vivant ou pas vivant, etc., c'est une considération subjective. C'est pas les mêmes critères que la science. Par exemple, on a le droit, le Shabbat, de refroidir de l'eau chaude, mais on n'a pas le droit de réchauffer de l'eau froide. Maintenant, il y a un problème. Comment est-ce qu'on fait pour refroidir de l'eau chaude? On mélange. Et pour refroidir et réchauffer de l'eau froide, on mélange. Alors pourquoi tel mélange serait considéré comme un refroidissement et l'autre un réchauffement? C'est subjectif. Non. Par exemple, il y a un débat dans la Guémara pour savoir. Si j'ai un récipient qui est rempli d'eau chaude et que je verse de l'eau froide dedans, alors il y a un des chachamim qui dit c'est interdit parce que ce qui est en bas réchauffe ce qui est versé dans le verre. Et l'autre dit non, pas du tout, c'est le froid qui l'emporte, il l'a agava, et ce qui est le chaud se refroidit. Maintenant, physiquement parlant, c'est exactement la même chose, d'accord? Donc c'est à dire que ce que la halakha considère, c'est un problème subjectif. C'est comment est-ce que moi en tant qu'homme je vois ça?
Non, mais c'est quand même lié à la quantité d'eau que j'ai.
Alors, non. Quand il y a des grandes quantités, alors tout le monde est d'accord. Si je mets beaucoup d'eau froide à la fois, mais si c'est une petite quantité, alors là, il y a une marloquette. D'accord? Quoi? Oui, bien sûr. Non, c'est quoi? C'est fini. Ah, il reste une goutte. Psss. Génial. C'est très bon, ça, la mangue. Je ne savais pas qu'il y avait une machine ici. Il y a une machine ici? Ah, je ne savais pas. Oui, donc ça c'est pour l'histoire de connaissances scientifiques des Chachamim. D'ailleurs, il y a un texte très important de Rav Shrira Gaon à ce propos. Rav Shrira Gaon, qui est quand même un rabbin orthodoxe, quelqu'un lui a demandé est-ce qu'on doit tenir compte des enseignements de médecine qu'il y a dans la Guémara. Il y a plusieurs textes médicaux dans la Guémara, dans Maseret Shabbat entre autres. Alors il dit qu'on n'a pas le droit de s'en servir. Il dit parce que Rabbanan lavasvataninhu, nos maîtres n'étaient pas des médecins. Et il dit le fait qu'ils ont amené de la médecine, c'est simplement parce qu'ils voulaient faire du bien aux gens. Alors ils se sont servis des connaissances médicales qui étaient en cours à l'époque. Et c'est dans la mesure où ça change, bien ça change, n'est-ce pas? Enseignement de Rav Shrira Gaon, qui était quand même un rabbin orthodoxe. Bon, le Maharal, il a une approche très particulière, je sais.
Que c'est faux.
C'est ce que dit Rav Shrira Gaon. Alors, les Tosfot, ils ont une tendance à dire Nishtanu Atvaim, la nature a changé.
Oui.
Mais Rav Shrira Gaon, il n'est pas d'accord avec ça. Rav Shrira Gaon est antérieur. Il dit les connaissances médicales de nos Chachamim n'étaient pas aussi précises que les nôtres, et donc on ne doit pas en tenir compte. Il est quand même Rosh Yeshiva de Pumbedita, Rav Shrira
Gaon. Oui, mais comment comprendre?
Il dit
ça. Que c'est au premier sens.
Ah oui, absolument. Ça veut dire que, d'ailleurs, c'est comme ça que les poskim le comprennent. C'est-à-dire que, à partir du moment où les Chachamim ont voulu également introduire dans la Guémara des connaissances utiles.
Alors, c'est considéré. Elles sont fausses.
Mais eux pensaient qu'elles étaient vraies. Les Chachamim qu'ils ont introduites, c'était la médecine de leur époque. D'ailleurs, la même chose dans le Rambam. Le Rambam a écrit des livres de médecine. Est-ce que c'est parce que le Rambam qui les a écrits que je dois forcément guérir de cette manière? Non. La médecine évolue, n'est-ce pas? D'ailleurs,
lorsque vous dites la médecine évolue, peut-être.
On a des connaissances que nous avons. Nous avons des connaissances que les anciens n'avaient pas, tout simplement.
Ou peut-être Nishtanu.
Alors, on peut dire aussi Nishtanu Atvaim, c'est trop facile, mais voilà. c'est pas ce que dit le Rambam, mais c'est pas ce que dit Rav Shrira Gaon. D'accord? Il faut savoir ça. C'est-à-dire, les Tosfot ont pu dire ce qu'ils ont dit, mais c'est pas évident cette histoire de Nishtanu Atvaim. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a un livre entier qui a été écrit par le Rav Goutel là-dessus, sur Shinui Atvaim Ba'alacha. Très intéressant, il amène beaucoup de sources à ce propos. D'accord? D'ailleurs, il y a tout un problème, par exemple, pour l'angle droit. Vous savez que les téphilines doivent être carrées. C'est quoi de carré? Il doit avoir quatre angles droits. Alors maintenant, comment mesurer que l'angle est vraiment droit? Eh bien, on n'a qu'à mesurer le rapport de l'hypoténuse aux deux côtés. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, n'est-ce pas? Qui c'est qui a dit ça?
Pierre.
C'est Pythagore, d'accord ? Bon. Eh bien, d'après la Guémara, ce n'est pas vrai cette histoire. C'est-à-dire, la relation n'est pas exactement la somme des carrés, c'est 1,2, c'est-à-dire 1 et 1 cinquième.
Vous pensez à la Guémara dans ce cas ?
Oui, bien sûr, très chumché.
Il y a tout un...
Il y a un rachage là-bas, je sais.
Un rachage, il y a aussi tout un...
Oui.
Ils ont arrondi, mais
oui, ils ont arrondi.
Ils connaissaient exactement le...
Peut-être que oui, peut-être que non, parce que c'était un secret chez les pythagoriciens, cette histoire de la racine du carré. Et il y a, d'après le Chazon Ish, par exemple, le carré des téphilines n'a pas besoin d'être un carré absolument exact. C'est-à-dire, on peut se contenter d'un rapport de 1,2. Ça suffit, pas plus que ça. D'accord ? Non, 1,4, pardon, 1,4.
D'accord, que l'essentiel, ce soit qu'il soit carré à vue d'œil.
Oui, c'est-à-dire, c'est quoi ? Mais alors justement, le problème, c'est que ma vue d'œil et ta vue d'œil, c'est pas exactement la même vue d'œil. Donc ça revient au principe qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que les définitions données par la halakha des choses sont des définitions subjectives et pas objectives. Oui ?
Mais elles sont vraies. Elles sont arrondies pour nous.
Enfin, elles sont vraies en quoi ? Elles sont subjectives. Par exemple, quand la Guémara. Quand j'ai un étrog. La Torah est fausse.
Non.
La Torah est vraie. Il faut savoir quelle est la vérité de la Torah. Tout simplement. J'ai un étrog. Alors je vais voir le rave. Dit ce point-là, il est noir ou il est marron ? S'il est noir, dans certains cas, le étrog est pas soul. Si c'est marron, le étrog est cachère. Alors maintenant, je regarde, c'est noir ou c'est marron ? Que fait le rave ? Il donne à celui qui a acheté, il dit regarde, c'est noir ou c'est marron ? Et c'est selon l'appréciation de l'acheteur que ça sera considéré comme noir ou marron. C'est-à-dire que l'appréciation voulue par la halakha est une appréciation subjective. On ne va pas ici mesurer le rayonnement à infrarouge, etc. D'accord ? Comme quoi se servir, par exemple, d'une loupe pour regarder, ça ne sert à rien. Pas la peine. C'est-à-dire, c'est la même chose pour le Sefer Torah. Il y a des cas. Ou bien, par exemple, dans le Sefer Torah, on a un doute si la lettre est cachère ou pas. Il y a certains cas où on demande à un enfant quelle lettre c'est. On appelle l'enfant, on lui dit quelle lettre c'est. Comment ? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Alors, on regarde une certaine distance. Par exemple, je rappelle une fois au Merkaz Arav, dans le Sefer Torah, le Baal Koré s'est arrêté au milieu, il y avait un petit problème. Et après, le Rav Shaoul Israéli a regardé, il a dit, vous n'aurez pas dû regarder de si près. Il faut regarder de si près. Oui, il regardait à distance normale, pas comme ça. Donc, c'est-à-dire que les définitions sont des définitions qui ne correspondent pas forcément à ce que veulent les scientifiques.
Oui, parce qu'après... Si on fait une analyse au chromatographe de masse de la Mata, on va trouver dedans du grand mètre, c'est sûr.
C'est évident, ouais.
Et même de n'importe quoi, c'est sûr.
Et dans la laitue, on va trouver aussi des...
Dans quoi, dans ? Dans la laitue.
Dans le bête, on prend un microscope, on va trouver aussi des bêtes.
Ah, microscope, oui, alors justement, on tient pas compte du microscope.
Ça veut dire quoi ? C'est pas une limite si où t'as...
Oui, c'est pas objectif, ça veut dire.
C'est pas bon,
ouais, exactement. Tom.
Et les acariens sont cachés.
Les acariens ?
Les acariens.
C'est quoi les acariens ?
Les acariens, vous savez, les espèces de sorte d'un insecte microscopique.
Ah oui, mais si j'en fais un paquet et qu'il est visible, oui. Alors ça devient interdit.
Non, mais ceux
d'accord.
Qui
c'est un tube de un tube d'acariens.
Ceux qui sont là,
oui.
Qui nous entourent.
Oui. Bon, Amarle. Alors on va continuer là. Bon, Amarle Haoumina, les Gviha Ben Pessissa. Vous y êtes là, c'est à la ligne longue, là, à la ligne large. Amarle Haoumina. Vous voulez un texte? Donc à la fin de la ligne large, Amarle Haoumina Ligvia Ben Pessissa. Un hérétique, qu'est-ce que c'est un hérétique ? C'est quelqu'un qui adopte des opinions contraires à la Torah. C'est ça ? Donc Amarle Haoumina Ligvia Ben Pessissa, il a dit à Gvia Ben Pessissa, qui était Gvia Ben Pessissa ? C'était un des Chachamim qui était bossu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelait Gevia. Gevia, ça veut dire le bossu. Mais non, ça a une importance de savoir qu'il était bossu, parce qu'un bossu ne peut pas être membre du Sanhédrin. Parce qu'il il a un défaut corporel. Celui qui a un défaut corporel ne peut pas être membre du Sanhédrin. Mais non, qu'est-ce que ça a d'important pour la Guémara ? On verra dans la suite du texte, je ne sais pas si on va y arriver ce soir, mais que ça a une conséquence. Voilachon hayavaya. Malheur à vous, pécheurs. d'amaritun metehayin, puisque vous affirmez que les morts revivront. Dehayin mete, de metehayin. Ceux qui vivent meurent. Alors ceux qui sont morts vont vivre. Vous comprenez l'argument ? C'est-à-dire que nous voyons que la marche générale de la vie, c'est la mort. C'est-à-dire, tout est emporté dans le gouffre de la mort. Donc on voit bien que la tendance générale de la création, c'est la chute. La résurrection des morts est donc contraire à la tendance générale du monde. Des haïs, je reprends ici, des haïs mété, ceux qui vivent meurent, des mété haïs, alors ceux qui sont morts vont vivre. Amarlé, c'est une objection, si vous voulez, non pas une objection scientifique, c'est une objection au niveau de la mégamaklalit, c'est-à-dire de la direction générale des choses. Amarlé, il lui a répondu, Voilechon Hayavaya, malheur à vous, pécheurs, Damaritun mete la haïn, puisque vous dites que les morts ne revivront pas. Vous avez remarqué que cette fois-ci, le débat n'est plus avec des rois, ni avec des minimes, ni avec des hébreux, etc. C'est avec des philosophes. C'est-à-dire, le mine en question, c'est un philosophe. Il dit De lahavo haye, de have haye, la kol sheken. Comment ? Ceux qui n'ont pas vécu vivent. Ceux qui ont déjà vécu, à plus forte raison qu'ils revivront. C'est-à-dire, il prouve qu'il y a dans le monde également une tendance à l'évolution créatrice, comme aurait dit Bergson. C'est-à-dire que on voit qu'à partir de la matière inerte, il y a une tendance à faire apparaître la vie. Ça veut donc dire que c'est la vie qui l'emporte sur la mort. Et donc même ceux qui sont morts vivront. Effectivement, c'est ce que disait Bergson. Bergson avait cette idée, c'était tiré du darwinisme, mais c'est-à-dire que à partir de la matière inerte est apparue la vie végétale, de la vie végétale la vie animale, de la vie animale l'homme, avec la pensée, la conscience, et c'est tellement fort, c'est une tendance générale de tout l'être, que viendra un jour où même la mort sera vaincue. C'était la philosophie de Bergson. Viendra un jour où la mort sera vaincue par la vie. D'accord ? Eh bien, on voit déjà cette intuition-là dans la Guémara. Mais un problème, c'est qui a raison ? Il y a ici, en fait, deux tendances. Il y a une tendance qu'on appelle l'anthropisme, ou l'anthropie. L'entropie, c'est cette idée que tout ce qui est organisé tombe, il y a une chute. Par exemple, construire un mur demande beaucoup d'efforts. Détruire un mur en demande moins. C'est plus facile de détruire que de construire. Et d'ailleurs, même ce qui est construit se détruit de par lui-même. Par exemple, un mur, si on le laisse, ben après plusieurs siècles, ben il tombe. Ça veut donc dire que finalement, toute la quantité d'énergie qu'il y a dans le monde sera un jour dépensée, les étoiles seront éteintes, on arrivera dans une obscurité totale, un monde vide et froid. Horrible. D'accord ? Donc c'est la mort qui l'emporte. Et puis il y a une vision optimiste, justement, celle de Bergson, qui dit au contraire, non, c'est la vie, il y a une sorte d'évolution créatrice qui fait que, il appelle ça l'élan vital, Bergson. Finalement, c'est la vie qui va l'emporter. Qui des deux a raison ? Alors évidemment, les mains minimes, les croyants, ont tendance à dire que c'est la vie qui va l'emporter. Mais le Maharal n'est pas d'accord. Le Maharal de Prague, dans le Netzar Israël, dit que c'est le contraire. C'est que, du point de vue de la nature, c'est l'entropie qui a raison. Et c'est le miracle, c'est l'intervention de Dieu qui fait que ça vit. Explique le verset « Somer Hashem lechol anoflim ». Dieu soutient tous ceux qui tombent. Qui sont ceux qui tombent ? Dit le Maharal, tous. Kol anoflim. Ce sont tous qui tombent. C'est-à-dire, la tendance de la nature, c'est effectivement la chute. Mais il y a une récupération, quelque chose qui fait remonter, et ça, c'est Somer Hashem lechol anoflim. D'accord ? Enfin, donc, c'est ce débat qui apparaît ici entre le Min et Gevira ben Pessissa. Qui fait les Nouflim. On peut dire que Akadosh Baruch Hu laisse le monde tomber. C'est-à-dire, il le. Quoi ? C'est ça que ça veut dire.
Chaque seconde.
C'est pas évident cette histoire. Parce que il y a une sorte d'autonomie de la création. Par exemple, dans le verset Vayichulu Hashamayim Ve'aretz, Unkelos traduit Ve'ishtachlilu Shmaya Ve'ara. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une sorte de libre arbitre laissé à la nature pour se former elle-même. Oui ?
C'est pas que je vois vous qui fait la nature.
Qui donne. Attention. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la liberté à la créature de se former. Par exemple, on a un cas que nous connaissons tous, c'est l'homme. Dans l'homme, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un libre arbitre. C'est-à-dire c'est l'homme qui se fabrique lui-même. Ce qui n'est pas contradictoire de la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que par exemple, les musulmans, eux, ils ont ce problème-là. Les musulmans disent que le libre arbitre, ça n'existe pas. Parce que si ça existait, le libre arbitre, ça veut dire que Dieu n'est pas tout-puissant. Nous autres, les juifs, ça ne nous dérange pas. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le libre arbitre, ça marche. D'accord ? D'ailleurs, une question qui a été. On avait parlé, je crois. Quelqu'un a demandé au Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever ? Qu'a répondu le Tzemar Tzedek ? Mais bien sûr qu'il le peut, puisqu'il a créé le libre arbitre. Il l'a fait. C'est-à-dire, le libre arbitre, c'est une pierre que Dieu a créée et qu'il ne peut pas lever lui-même. Maintenant, le chidouche que des Mekoubalim, dans leur manière de voir. La liberté, c'est sérieux. C'est pas du bluff. C'est-à-dire, quand Akadosh Baruch Hu, il nous fait libre, il nous fait véritablement libre. Il ne se moque pas de nous.
Mais il peut à chaque seconde.
Il pourrait, mais il ne le fait pas.
Il ne le fait pas.
Et donc, oui, il y a le miracle qui parfois enlève le libre arbitre, par exemple pour Paro. Mais. Alors maintenant, le chidouche des Mekoubalim, c'est que c'est vrai pas seulement pour l'homme, mais que c'est vrai pour la nature tout entière. Et c'est d'ailleurs dit par allusion chez Rashi. Rashi, dans son commentaire sur la Torah, nous amène le Midrash qui nous dit que la terre a péché. Pourquoi est-ce que Rashi a voulu que tout juif lise ça dans la Torah ? Il a pensé que c'était important que tout juif ait cette connaissance qu'il y a un élément de liberté dans la nature. D'accord ? Et donc, pourquoi je veux parler de ça ? Ah oui, parce qu'on a parlé de la chute, oui, justement. Alors justement, la chute, il y a une sorte d'indépendance de la chute. C'est, on pourrait dire que si la nature est laissée à elle-même, elle tombe. D'accord ? Et tandis que c'est l'intervention de la Kadosh Baruch Hu qui l'a fait remonter. C'est ce qu'explique le Maharal de Prague.
Quand il dit qu'il y a toujours un malheur pour chaque plante qui dit.
Ça, c'est autre chose.
De grandir, etc.
Ça, c'est autre chose.
C'est pas parce que.
Ce n'est pas la même chose. Le Rambam explique que l'ange qui fait pousser la fleur, c'est pas un ange. C'est des forces de la nature. Dans le Borei Nevuchim, il explique que le mot malach a plusieurs significations. Et donc, il y a le malach d'en haut, les vrais, quoi. Et puis, il y a les forces de nature. Par exemple, la gravitation, c'est un malach aussi. D'accord ? C'est le Rambam qui le dit.
Ouais.
Maintenant, je sais bien que c'est très difficile ce que je dis là, parce qu'on n'a pas l'habitude de penser comme ça, parce qu'on est entièrement imprégné de chassidisme. C'est la chassidoute qui a dit le contraire. C'est depuis le Baal Shem Tov qui a affirmé que Dieu se mêlait de toute fleur, de toute feuille qui tombe de l'arbre, etc. Alors, on est persuadé que c'est ça l'opinion des Rishonim. Mais les Rishonim ne pensent pas comme ça.
On a tendance à penser que c'est une opinion plus pieuse.
Oui, c'est plus pieux. Mais justement, la première fois que j'ai vu la présence de cette opinion, c'est dans le Sefer Achinour. Dans le Sefer Achinour, quand il parle de l'Ashgacha, il dit qu'effectivement l'Ashgacha est graduelle, elle n'est pas sur toute chose de la même manière. Il dit, et certains disent que l'Ashgacha est égal en tout. Mais il dit que c'est une opinion difficile à admettre. Et puis après, depuis le Baal Shem Tov, c'est devenu l'opinion de tout le monde. D'accord ? Il faut savoir que ce n'est pas l'opinion originelle des Chachamim. Oui. Oui, non, d'accord.
Oui. Au niveau de la physique, de l'atome,
oui.
On parle d'un noyau et des électrons qui tournent autour.
Oui.
L'énergie qui. Cette énergie qui est autour de l'électron qui tourne autour de. C'est quelque chose de divin aussi. C'est...
L'origine de l'énergie, c'est quelqu'un qui l'a créé, je veux bien.
Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'indépendant.
Non, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Oui, mais ça, le Rambam aussi est d'accord. Le Rambam aussi dit que la nature est créée par Dieu. Mais maintenant, de quelle manière ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a une autonomie ? Est-ce que Dieu a donné une autonomie aux électrons ou pas ? Alors, il y a plusieurs manières de comprendre ça. Est-ce que, par exemple, si on dit que le trajet des électrons est déterminé à l'avance, alors effectivement, il n'y a pas de liberté du tout. Mais aujourd'hui, justement, dans la physique corpusculaire, on admet qu'il y aurait une sorte de marge de chaos au niveau des électrons, justement. Et donc, ça voudrait dire que tout n'est pas totalement déterminé. D'accord ? Excuse-moi de te déranger, hein, on est. On fait un cours, mais c'est pas pour. Tu nous en veux pas. Bon, c'est.
Le rabbin nous dit que de l'attitude des Nissim, Mistaré.
Oui, c'est la.
Que... Lui, il est d'accord avec le principe pourquoi tout le, la Teva, c'est quand même un.
Il dit que c'est un. Non, il...
bon,
non. Non. Le Ramban, dans son commentaire sur Yov, cite, dans le chapitre Lamedzaïn, verset Yudbet, il cite mot pour mot le Ramban, à ce propos. Et il dit Veyafé Piresh Rabbeinu. Ouais. J'ai une fois un débat là-dessus en fax avec un rave qui disait que le Ramban n'était pas d'accord avec le Ramban. Je lui ai amené le texte de Yov. Donc, quand même, continuons la discussion avec Via Ben Pessissa. Amarle, il lui a répondu Hayavaya Karitli, comment tu m'appelles pêcheur, hein, troisième ligne large. Ika imna, si je me lève, ba'it nabach, je te donnerai un coup de pied, ou fashitna lakmutar minar, pour redresser ta bosse. C'est bizarre cette réaction. Amarle, il lui a répondu Imata oseken, si tu fais cela, Rofe umantikare, tu seras appelé un grand médecin. Vesachar betitol, tu seras bien récompensé. Alors, c'est quoi? Il se moque de lui. C'est bon. C'est on a le droit de rigoler, mais enfin, pourquoi est-ce que la Guémara nous raconte des histoires de ce genre? Il y a ici une sorte de réprimande de la part des nations envers Israël. Pourquoi est-ce que vous êtes bossu? Ben, c'est l'argument contre Yaakov. Yaakov, il agit par des voies tordues. Que veut dire le mot « akov » d'ailleurs en hébreu ? Tordu. « Akov » ça veut dire tordu. N'est-ce pas ? D'ailleurs le mot « akom » aussi, mais aussi « akov ». C'est ce qui n'est pas droit. « Ve'aya he'akov l'emishor » ce qui est bosselé sera droit. Et donc il y a ici une sorte de reproche moral qui est fait par les nations. Pourquoi est-ce que vous, les Juifs, vous avez des manières tordues de vivre dans ce monde? Et donc, il veut. Et c'est pour ça qu'il y a une tentation d'exercer la violence contre les Juifs, pour les redresser, parce qu'ils ne font pas partie de l'ordre du monde. Et la réponse, c'est oui, mais c'est le monde qui est tordu. Si tu arrives à le faire, tu seras un grand médecin, tu seras bien récompensé, mais c'est le monde qui est tordu. Et donc, dans un monde tordu, Israël emploie des voies tordues. D'accord? Voilà. Ben voilà, on en a fait pas mal quand même pour un cours de jour de neige. Shalom.